toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
À notre sommaire aujourd'hui, pour inaugurer cette année 2016, deux passeurs tout à fait différents. Ils ont leur façon à eux, très singulière, particulière, pour être des passeurs de quoi ? Bien sûr, des passeurs de science. Le premier s'appelle Camille Fadel. Il travaille au Palais de la Découverte, il est physicien. Il s'occupe des choses de la physique, on va dire. Il expliquera peut-être mieux exactement sa fonction. On peut le considérer aussi comme journaliste scientifique, bien évidemment. Et puis, un autre passeur, c'est Pierre Barthélémy. Il est journaliste, il est blogueur aussi. Et pour donner quelques petits coefficients d'étrangeté, pour le définir, il y a peu, on avait déjà défini la collapsologie, qui est une discipline très étrange. Eh bien, cette fois... Pierre Barthélémy travaille, lui, intensément dans l'improbabologie. Improbabologie. Mais on ne va pas perdre, évidemment, nos bonnes habitudes dans ce début d'année. Et tout de suite, la chronique animalière. Cette chronique animalière qui ouvre cette nouvelle année, je retiens des lézards. Des lézards qui vivent en Amérique du Nord et plus précisément encore des lézards étranges. Leur nom exact en science est Celoporus undulatus ou lézard des palissades. Dans cette espèce, certaines femelles présentent un ornement typiquement masculin. Des taches bleues sur l'abdomen et sous la gorge. Elles forment des copies, mais atténuées, de celles plus vives, qu'arborent les mâles. Les scientifiques ont découvert que ces femelles, qu'ils nomment par jeu à barbe, avec les guillemets qu'il faut, attirent moins les mâles, qui leur préfèrent leurs congénères plus féminines, donc sans barbe. Ces femelles délaissées sont pourtant majoritaires, de 44 à 95% selon les populations. Ce curieux paradoxe conduit à cette question. Si les femelles à barbe, allez, je vais décider de les appeler ainsi, payent le prix de cet ornement par une diminution de leur valeur sélective, pourquoi ces traits masculins persistent-ils? Les chercheurs ont exploité des données existantes sur la fécondité de 118 femelles. Puis, ils ont testé la préférence de 17 mâles en matière de choix de partenaires sexuels avec ou sans barbe. Pour cela, ils ont examiné deux indicateurs, le temps passé par les mâles à proximité d'une femelle et le temps à la courtiser, la femelle. Verdict ? Les mâles ont une préférence pour les belles, dénuées d'atours masculins. Les femelles à barbe se reproduisent pourtant in fine autant que leurs rivales, mais elles pondent un peu moins d'œufs. 9,9 contre 11,9 très exactement, et surtout leur couvée s'avère plus légère. 3,73 contre 5,11 grammes est plus tardive. La ponte a lieu en moyenne 15 jours plus tard et l'éclosion 8 jours après. Ce qui pourrait avoir des conséquences en matière de croissance ou de survie des jeunes, bien sûr. Pourquoi ces femelles sont-elles si nombreuses à posséder un trait qui semble les désavantager et semble n'avoir aucune fonction connue par ailleurs? La testostérone est peut-être la clé de l'explication. En effet, les taches de couleur sont liées au niveau de concentration de cette hormone sexuelle mâle, comme tout le monde sait. On peut donc en déduire que les femelles qui présentent ces motifs présentent aussi des niveaux de testostérone plus élevés, estime un chercheur. En temps ordinaire, une forte concentration en testostérone est associée à de nombreux inconvénients. Curieusement, croissance et survie plus faibles, parasitisme accru, stress plus élevé. Il serait donc possible que la possession de cet ornement masculin coûteux corresponde à un moment précis dans le processus évolutif de cette espèce. Les femelles à barbe seraient en fait tranquillement en train de disparaître sous l'effet de la sélection sexuelle. Mais, à contrario, il est aussi envisageable que la testostérone leur procure des bénéfices cachés. Ces femelles à barbe sont plus agressives, certaines plus favorisées dans la compétition pour les ressources, par exemple en cas de sécheresse. Et puis, seconde possibilité, celui-ci sur le plan sexuel stricto sensu. Ces femelles plus masculines trouveraient une matière à compensation dans une domination sociale de leurs congénères femelles, disons plus attractives. Bonjour Camille Fanel.
Bonjour.
Alors, est-ce que j'ai bien désigné votre multiple fonction en tant que passeur? Ça, passeur, vous l'êtes tout le temps. Passeur de sciences.
Oui, bien sûr.
Et d'histoire des sciences.
Passeur des sciences, on peut appeler ça comme ça. Au Palais des Découvertes, je fais beaucoup de présentations pour le public. J'écris des articles dans la revue du Palais des Découvertes, mais aussi dans d'autres magazines. Et puis parfois dans des émissions de radio ou télé.
On peut le dire d'ailleurs, parce que récemment vous avez écrit un très bel article sur la chiralité, qui est évidemment une propriété magnifique, hein, qui joue sur cette symétrie bizarre et les corps énantiomorphes qui ont été découverts et par Van 't Hoff et par le célèbre Pasteur, et qui font que le gant droit n'a rien à voir avec le gant gauche, puisqu'ils ne sont pas superposables l'un et l'autre. Pierre Barthélémy, alors vous, comment vous appelez là? Donc, journaliste passeur, bien évidemment, et puis vous inventez l'improbabologie. Alors, qu'est-ce que c'est le cahier des charges que vous vous êtes intimement et in petto d'abord imposé?
D'abord, c'est avant tout et toujours, finalement, continuer à faire de la vulgarisation scientifique. Simplement, c'était une idée que j'ai eue au moment où Le Monde a lancé son supplément sur les sciences et la médecine. C'était un supplément absolument sérieux, tiré au cordeau. Et on m'avait demandé d'inventer une chronique pour ce supplément. Et je me suis dit que peut-être que la meilleure façon de faire, c'était de mettre un petit grain de zizanie justement dans ce supplément qui était tiré au cordeau. Zizanie, pourquoi? Parce que c'était passé par l'humour et ce qu'on appelle la science improbable, c'est-à-dire la science qui fait d'abord sourire, rire, et ensuite réfléchir, parce que derrière les questions loufoques, il y a souvent des phénomènes ou des questions plus profondes. Donc voilà, l'idée c'était de prolonger mon travail de journaliste scientifique, de vulgarisateur, avec une touche d'humour. Et en fait, c'est intéressant parce que ça marche très bien, parce qu'on apprend mieux en
s'amusant.
Vous voulez
dire auprès du public? Auprès du public. Oui, bien sûr. On apprend mieux en s'amusant, c'est vrai. On apprend bien aussi quand on est dans le plaisir.
Exactement.
C'est souvent le cas. Et les choses simples des sciences peuvent encore apporter du plaisir. Alors là, voilà, on va donc immédiatement dessiner notre sommaire. Pour voir la répartition des rôles, on va faire une sorte de sandwich avec différentes couches. Hein. Une fois l'amusement, une fois l'histoire des sciences, le sérieux, mais en mettant des guillemets, et puis une fois un exemple d'improbabologie. Je vais finir par bien le prononcer, hein, facilement. Hein. Alors on va commencer d'ailleurs tout de suite. Vous avez eu, d'une certaine façon, vous avez eu des précurseurs, ou en tout cas des malicieux. Et ils ouvrent votre ouvrage. D'ailleurs, j'aurais pu donner déjà tout de suite le titre de vos ouvrages respectifs. Celui de Camille Fanel est « Vous avez dit physique ?» avec un point d'interrogation. Sous-titre « De la cuisine au salon, de la physique partout dans la maison ». De la physique au salon, de la physique partout dans la maison. Quant au vôtre, Pierre Barthélémy, « La science improbable du docteur Barthes ». Bon, on a compris, qui est le docteur Barthes. Illustration de Marion Montaigne. Ça doit pas être facile tout le temps pour elle, hein.
C'est assez facile parce que elle a beaucoup d'esprit et puis surtout elle est déjà branchée science improbable avec le blog qu'elle tient qui s'appelle Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même.
D'accord.
Donc, elle est déjà dans cet état d'esprit. Donc, je pense que ça lui demande pas énormément d'adaptation.
Oui.
C'est vrai qu'elle a inventé ce personnage du docteur Barthes qui revient dans ses dessins. C'était juste un petit peu pour se moquer de moi. C'est vrai que c'est la troisième fois qu'on collabore ensemble et ça prouve une certaine complicité entre nous. Oui.
Alors revenons à ces Ig Nobel, donc qui sont les Nobel, puisque c'est évidemment on a compris le jeu de mots, ignoble, tous les ans comme les prix Nobel. Alors, moi, je vais en proposer un tout de suite pour donner l'allure, mais après, je vous laisse tout de suite la parole, mais il y en a un qui m'a toujours... il suffit que j'y pense pour rire à chaque fois, voilà, c'est j'ai le rire bête, mais... donc, c'est des inventions, des expériences, il y a aussi des applications, et en particulier, il y a des promeneurs de forêt qui ont vraiment la trouille, à juste titre, du grizzly. Et donc, il a proposé une méthode expérimental où il faisait une sorte entre guillemets d'armure à grizzly. Vous la connaissez, je vois.
Oui,
vous
je la connais. C'était il y a quelques années. c'était vraiment très drôle.
Bah, elle est finie, c'est racontée là.
Ah, je me souviens plus exactement des détails de cette histoire, mais ce qui est amusant, c'est que les ours sont encore revenus récemment dans l'histoire, puisque il y a encore en 2014 a été récompensé un duo norvégien qui avait pour tâche d'observer les réactions de rennes de Spitzberg face à des humains qui étaient déguisés en ours polaires. Voilà, c'est vrai qu'on s'ennuie beaucoup là-bas, donc il faut inventer ce genre d'expérience pour s'amuser un petit peu. Mais alors, les Ig Nobel, c'est effectivement une cérémonie qui a lieu tous les ans.
Oui.
Ce qui est amusant, c'est de voir comment elle a évolué. C'est-à-dire qu'au départ, les gens qui étaient nommés pour cette cérémonie renaclaient un peu à l'idée d'y aller parce qu'ils disaient « mince, ça donne une mauvaise idée de moi, de la science, de ce que j'ai fait ». Et aujourd'hui, on se rend compte que ça a vraiment évoluer puisque les gens sont quasiment fiers et ravis d'être nommés et de montrer justement qu'on peut s'intéresser à la science par l'humour, qu'on peut faire passer des choses par l'humour avec des expériences amusantes, loufoques, mais qui ont toujours des interrogations un peu plus profondes que ça.
Et qui parfois ont des interrogations, qui parfois amènent des interrogations, font poursuivre. Juste, je termine parce qu'on n'a pas donné la fin de cette histoire. Voilà donc notre spécialiste des grizzlies, essayant de protéger, qui fait donc cette armure. Et bien sûr, il expérimente. Et on le met sur un terrain montueux. Le voilà partir et à 300 mètres du point de départ, il tombe et il se casse la clavicule. Donc, comme protection du grizzly, il prenait des risques avec son armure. Camille Fadel, un petit mot de commentaire.
Oui, je voulais dire que, effectivement, les Ig Nobel, c'est tout à fait, sont des questions qui font rire, mais qui ensuite amènent à réfléchir. Et le point intéressant que je voulais ajouter, c'est qu'il y a une personne qui a reçu un vrai prix Nobel de physique et un Ig Nobel, c'était en 2010.
Oui.
André Geim, qui pour son Ig Nobel, il avait réussi à faire léviter une grenouille. Et vrai Nobel de physique, c'était pour la mise au point des graphènes ou une étude qui portait sur les graphènes en 2010.
Oui, les graphènes, oui. Alors, il y a aussi ce particularisme, mais vous me disiez au préalable de cette émission, Pierre Barthélémy, que certains rechignent un petit peu, mais ils ont trouvé encore aussi une malice, c'est d'inviter des vrais prix Nobel et qui tiennent le buffet.
Tiennent le buffet, pas forcément, mais en tout cas, qui montent sur scène, qui participent à la célébration, qui décernent les prix, qui même parfois font les expériences, refont les expériences. Je me souviens très bien d'une expérience il y a quelques années. C'était une dame qui avait obtenu un Ig Nobel, je ne sais plus dans quelle catégorie. Elle avait inventé un soutien-gorge qui pouvait servir, dont chacun des bonnets pouvait servir de masque à gaz en cas d'attaque chimique. Et donc, on avait sur la scène 3 ou 4 prix Nobel, dont Orhan Pamuk, je me souviens, le prix Nobel de littérature, qui ont testé le soutien-gorge sur la figure pour montrer comment ça fonctionnait.
D'accord. Oui, alors, et puis aussi, alors je ne sais pas si ça s'est fait souvent, mais on leur dit aussi à la fin, après avoir tenu le buffet, il faudrait nettoyer la salle maintenant, s'il vous plaît. Vous mettez les chaises sur les tables et prenez vos balais et vos serpillères. Bon, allons-y pour cette premier exemple d'improbabologie. Pierre Barthélémy, je l'aime beaucoup parce que Holiday on Banana, vous allez expliquer tout de suite, mais le Holiday on Banana, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Alors, explication.
Oui, donc c'était toujours dans les Ig Nobel de 2014. C'est le travail d'une équipe japonaise qui est parue en 2012. Mmh. Alors, c'est sur le coefficient de friction de la peau de banane posée sur du linoléum. Alors, on a tous vu des gags où on se jette des peaux de banane et on marche dessus et on tombe. Et donc, oui, la peau de banane, c'est glissant. Et pourquoi c'est glissant? Comment c'est glissant? À quel point c'est glissant? Etc., etc. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste déposé des peaux de banane sur du lino et on mettait un pied dessus. Donc, il fallait mesurer les forces qui s'exerçaient. Et on s'est rendu compte, les chercheurs japonais qui ont fait cette expérience se sont rendus compte que la conjugaison de ces trois éléments donnait un résultat extrêmement glissant, et c'est vrai que c'est ce qui est très amusant dans cette histoire, c'est que bon, le résultat porte pas vraiment à conséquence, mais c'est que c'est un point important de la recherche tribologique, parce que la tribologie c'est la science du frottement.
Oui.
Au Japon, il y a eu plusieurs expériences sur la peau de banane. Alors je me posais la question de savoir si c'était un écho lointain de l'amour des Japonais pour le patinage artistique.
Alors ce qu'on peut faire, c'est tout de suite vous suggérer, Camille Fadel, un commentaire, parce que en particulier, on peut expliquer que les problèmes de tribologie, en particulier de glissement, ont été très énormément travaillés dans ce qu'on appelle la physique mésoscopique en particulier, et que il faut arriver à faire comprendre, par exemple, pourquoi les skis glissent sur la neige.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas que les skis. Dans certaines situations, on voudrait que ça glisse, mais dans d'autres situations, on voudrait que ça ne glisse pas. Et dans certaines situations, on voudrait que parfois ça glisse et parfois pas. Je pense en particulier à une voiture qui est en train de rouler comme il faut. On voudrait que, au moment du freinage, il glisse pas. Donc ça frotte beaucoup. Mais quand il roule, on voudrait que ça ne frotte pas trop, quoi, contre le bitume. Concernant le ski, on sait depuis maintenant pas mal de temps qu'il faut une fine couche d'eau qui s'interpose entre les skis et la neige pour que ça glisse. Il en est d'ailleurs de même avec le patinage artistique.
Bien sûr.
Il faut qu'il y ait une fine pellicule d'eau. Et d'ailleurs, la manière dont cette fine pellicule d'eau se forme dans le cas du patinage artistique a été un sujet de débat depuis très très longtemps. Et un des premiers qui a eu une excellente idée qui a été reprise il y a une dizaine d'années par les chercheurs, c'est Faraday, dont on parlera sans doute tout à l'heure pour ses travaux en électricité.
Et magnétisme, bien sûr. Alors, on peut peut-être tout de suite, parce que j'ai eu des difficultés terribles, je dois l'avouer, parce que tout m'intéressait, tout me plaisait beaucoup, certaines je les avais lues, mais à nouveau rassemblées comme ça en un volume, j'ai eu de la difficulté. Alors, je vous propose, on va changer complètement de thème cette fois, et je vous lance donc le nom de John Fitzgerald Kennedy, avec une drôle d'histoire, je vous laisse dire.
Alors, Pierre évidemment, Martin. De John Fitzgerald Kennedy, on peut retenir beaucoup de choses, mais c'est vrai que ce que les gens retiennent le plus, c'est sa fin. C'est sa mort le 22 novembre 63 à Dallas, avec les coups de feu, et puis surtout... la théorie du complot et l'idée qu'on ne saura jamais vraiment ce qui s'est produit, qui était derrière cet assassinat.
Oui.
Pourtant, on a la réponse, hein, en réalité. La réponse, c'est un monsieur qui s'appelle Alan Salerian, qui l'a donné en 2010 dans un journal qui s'appelle Medical Hypothesis. Et c'est un psychiatre, ce monsieur, et il a expliqué par A plus B ce qu'on aurait tous dû deviner, c'est-à-dire que Kennedy était mort empoisonné. Voilà. Et c'était un raisonnement incroyable. Donc l'idée, c'est non, on va oublier la balle qui a traversé la tête du président. Bon, c'était juste une broutille. Et on va se concentrer sur la blessure qu'il avait à la gorge. Et en fait, cette blessure qu'il avait à la gorge, qui était assez petite d'après la première description qu'on a fait à l'hôpital, c'était juste une fléchette ou une piqûre, etc. Donc... Et il a repris l'idée que c'était un parapluie qui avait envoyé une espèce de fléchette empoisonnée dans la gorge. Il a monté toute une théorie, etc. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est pas juste le délire de ce monsieur, c'est que ça a été publié dans une revue. Et là, ça pose un vrai problème, parce que c'est vrai que la science se fait à travers les publications. Donc je me suis posé la question de savoir ce que c'était que ce journal, Medical Hypothesis. Et donc c'était un journal, qui existe toujours d'ailleurs, et qui avait été conçu comme un forum destiné à présenter des hypothèses à la communauté biomédicale. Et pendant très longtemps, les articles qui étaient publiés dans ce journal n'étaient pas relus par des pairs, contrairement à ce qui se pratique dans quasiment toutes les autres revues. Et c'est pour ça qu'un article comme celui d'Alain Salerian a pu être publié. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en 2010... Il y a eu la parution de textes dans ce journal qui prétendaient que rien ne prouvait que le VIH causait le sida. Et là, il y a eu une espèce de bronca internationale, puisqu'évidemment, ça avait des implications sanitaires extrêmement importantes. Elsevier, l'éditeur de la revue, s'est résolu à faire le ménage dans cette revue et à garantir un minimum de relecture. Et l'article d'Alain Salerian, pour la petite histoire, il a été publié juste quelques jours avant qu'Elsevier impose la nouvelle politique.
Ah, voilà. D'accord. Elsevier, d'accord. Celui qui fait fortune, le groupe qui fait fortune avec les recherches faites sur les résultats de la pratique scientifique publique, avec des budgets publics. Hein, et que, voilà. D'ailleurs, il y a eu une révolte extrêmement forte, en tout cas pour ce qui est de la corporation des mathématiciens, je vais l'appeler comme ça, qui ont mené une lutte contre cette attitude. De toute façon, Camille Fadel, on a une règle qui est une règle éthique, hein, en général, quand on fait ce métier de passeur, on fait très très attention à nos sources, et en particulier, on n'a rien trouvé de mieux pour l'instant, on fait confiance aux revues à référer.
Oui, tout à fait. Et de manière générale, ce qu'on cherche toujours à faire, c'est, comme vous le disiez à l'instant, d'indiquer les sources et d'avoir soi-même vérifié que ces sources sont fiables. C'est pour ça que généralement, le mieux, c'est d'aller chercher les sources de première main et pas de seconde ou troisième main qui déforment un petit peu les données.
Mais oui, surtout pas. Mais alors, toute petite aparté, cette petite incise, Pierre Barthélémy, je vois, moi, le nombre de revues sur lesquelles j'ai une espèce de surveillance étroite. Et c'est tout à fait normal pour les chroniques animalières. Mais alors là, quand on lit votre livre, mais c'est invraisemblable. C'est votre réseau de surveillance intime pour... parce que ce journal-là, faut le trouver, quoi.
Alors, non, contrairement à ce que vous croyez, ce journal-là, on le trouve assez fréquemment. Il est très souvent cité, justement, pour des tas de raisons bonnes et mauvaises. Mais c'est vrai que j'ai une espèce de veille journalistique sur beaucoup de revues, étant donné qu'effectivement, toutes ces petites histoires loufoques, ces petites perles, comme je les appelle, il faut aller les dénicher. Elles sont souvent assez bien cachées, puisque généralement, on n'en fait pas trop la publicité.
Alors on va fermer qu'avec des mots, puisque évidemment l'un des attraits extraordinaires du Palais de la Découverte, dont nous sommes tous amoureux, je m'engage, hein. En tout cas beaucoup d'entre nous et de très grands scientifiques, hein, qui ont vu leur vocation naître dans ces différentes salles, hein, et en plus de la beauté du lieu et de ce renouvellement, j'espère qu'on aura le temps de venir au renouvellement des présentations des idées. On va faire dans le classique, oui. Puisque vous avez deux chapitres dans Vous avez dit physique, qui sont séparés par la théorie atomique, hein. Vous faites une petite légitime, mais une petite parenthèse, si je puis dire, dans ce chapitre sur la théorie atomique. Pour ce qui est de l'électricité, évidemment, de de l'électromagnétisme. Et d'abord, ça m'a arrêté parce que au fur et à mesure des questions et de vos explications, je vous dirai les expectatives et les difficultés que j'ai moi en tant que passeur à mon tour quand il faut mobiliser et expliquer. Alors on va être là dans le basique simple. Vous avez accepté cette règle du jeu, Camille Fadel. On va dire que on va rappeler d'un mot ce que c'est que un atome, de quoi est-il constitué, le plus simple par exemple.
Tous les atomes sont constitués de la même manière, un noyau qui contient ce qu'on appelle des protons et des neutrons. Les protons sont électriquement positifs, les neutrons électriquement neutres, et autour de ce noyau on trouve des électrons. C'est volontairement que je viens de dire qu'on trouve des électrons. Je n'ai pas dit qu'il y a des électrons qui tournent autour ou des électrons en orbite, puisque même si cette image-là, on l'avait au début du XXe siècle, dans les années 1910, par la suite, on l'a abandonnée. Mais ce qui reste vrai, c'est qu'on trouve des électrons. Maintenant, que font ces électrons autour du noyau électrique? Est-ce qu'ils sont sur des orbites? Peu importe.
Oui, on oublie, on sait.
Il y a des électrons autour du noyau et l'ensemble constitue l'atome.
Voilà. Et évidemment, vous le rappelez d'un mot parce que il faut donner évidemment l'échelle des choses pour avoir une représentation minimum. Et vous rappelez que, par exemple, la distance entre un électron et le noyau peut être quelques 10 000 voire 100 000 fois le diamètre de ce dernier. Ce qui fait dire, d'ailleurs, bon, il y a des effets de collision, vous pourriez d'ailleurs tout de suite l'expliquer après, mais qui fait que je suis assis sur du vide.
Voilà, l'atome est essentiellement vide, oui, vide de matière, on va dire, mais pas vide de rien. il y a quelque chose, manifestement, entre le noyau et les électrons qui sont extrêmement loin à cette échelle-là. Mais cette chose, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, ce n'est pas de la matière. Est-ce qu'on peut dire que c'est du vide? Est-ce que c'est du néant? Ça, c'est d'autres questions qu'on peut se poser.
On peut dire, si on n'y revient pas, qu'en tout cas, le vide se conjugue d'une drôle de façon, ou se définit d'une drôle de façon, mais cette fois, il faut y rajouter la mécanique quantique, avec des concepts importés de ceux en particulier qu'on va mobiliser aujourd'hui, celui de champ, et que ça bouge tout le temps. Et donc, on peut dire que le vide fluctue. Bon, voilà. Il est fluctuant.
C'est-à-dire qu'entre le noyau et les électrons qui sont autour du noyau, il se passe des choses. Et l'attraction, comment ces électrons sont maintenus autour du noyau et ne partent pas comme une fronde qu'on aurait lâchée en ligne droite, qu'est-ce qui fait que les électrons restent là? C'est qu'il se passe des choses, il y a des échanges. De nos jours, puisque vous avez parlé de physique quantique, on dirait que entre le noyau et les électrons, il y a des échanges de photons, c'est-à-dire des grains de lumière, mais des photons un peu spéciaux qu'on appelle photons virtuels. Et voilà, là, on est en plein quantique, en fait.
Et oui, et qui s'annihilent dès qu'ils apparaissent, et hop, et ça commence, et ça continue plutôt à bouillir. Alors, autre exemple sur lequel je vous lance, donc, c'est, vous abordez évidemment la question de la liaison qu'on peut établir entre deux atomes. Donc, évidemment, elle va nous conduire à l'intensité de la force. Donc, c'est bien sûr l'effet de répulsion électrostatique. C'est ainsi qu'on l'appelle. Vous avez une jolie formule. Là encore, vous avez une belle image. Il faudrait que... Je vous laisse lire, je vous laisse expliquer. Allez, vous avez calculé le poids qu'il faudrait mettre.
Ah oui. Effectivement, si on prenait deux électrons, les électrons entre eux, ils se repoussent. Si on prenait deux électrons, et on voulait les rapprocher à une distance vraiment très petite, que je prends à 10 puissance moins 15 mètres, c'est-à-dire un millionième de milliardième de mètre, ou un millionième de millimètre.
Oui.
À cette distance-là, la force de répulsion en deux électrons est telle qu'il faudrait être capable de soulever une vingtaine de kilos. Si je suis capable de soulever 20 kilos, alors je peux maintenir ces deux électrons-là à cette distance-là. Ou une autre manière de dire la même chose, c'est si je mets deux électrons l'un au-dessus de l'autre à cette distance, si je veux que celui qui est au-dessus ne soit pas éjecté vers le haut, il faut que je pose dessus une brique de 23 kilos. Voilà.
Étonnant, elle a une force, là, la force répulsive prend toute sa dimension quand on dit ça. Hein.
Je dirais sans doute l'un des points les plus importants de ce domaine qu'on appelle l'électrostatique, à être conscient que les forces électrostatiques sont absolument gigantesques, colossales. Pour des particules qui pèsent si peu, puisque les électrons ne pèsent que un milliardième de milliardième de milliardième de gramme.
C'est ça.
Pousser de cette manière, c'est inimaginable.
Oui. Donc, répulsion, on l'a vu. Comment est-ce qu'on peut maintenant conclure là ce point avant que on fasse revenir en scène, si je puis dire, l'improbabiligiste? Tiens. Après tout, voilà, tiens, on l'a dit comme ça.
L'improbabologiste. Moi, j'aurais peut-être une petite question, parce que
j'étais
vraiment très surpris de lire dans le livre de Camille Fadel que, justement, en parlant de l'électricité statique, on ne sait pas par quel mécanisme se produisent les phénomènes d'électricité statique que nous, on peut rencontrer tous les jours en se peignant ou avec une règle en plastique qu'on frotte sur un pull. On ne sait pas comment ça se transfère.
Non, et effectivement, ça fait partie de ces choses que tout le monde a fait de l'électrostatique à un moment ou à un autre, à l'école, au collège, peut-être au lycée, je ne sais pas. Mais ce qu'on apprend, c'est que la matière, de manière générale, est neutre, parce qu'il y a autant d'électrons que de protons au niveau de chaque atome. Et cette neutralité fait que la matière ne présente pas, a priori comme ça, des propriétés électriques. Mais dès l'instant où on prend deux matériaux qui ne sont pas de même nature, mais en fait, même dans certains cas, même s'ils sont de même nature, si on frotte un matériau contre un autre, lors du frottement, il y a l'un des deux qui va arracher des électrons qui sont négatifs à l'autre. Celui qui perd des électrons, il lui manque des moins, il devient plus. Celui qui en a gagné devient moins. Mais c'est ce que vous disiez, ce que j'explique dans le livre, je dis dans le livre, c'est que le mécanisme intime en jeu dans le frottement et qui fait qu'il y a un transfert d'électrons d'un matériau vers l'autre, et ce mécanisme-là n'est pas connu. Et je trouve ça très dommage qu'on ne le dise pas assez souvent, dans les cours en particulier d'électricité, d'électricité qu'on apprend. Très vite, on nous raconte les histoires du 18e siècle, c'est le siècle de l'électrostatique, et on, sans le dire, on laisse penser que le mécanisme est connu, alors qu'il n'est pas connu, et ça intéresse beaucoup de chercheurs, puisque dans certaines situations, on ne veut pas qu'il y ait des transferts de charge, puisque tout transfert de charge aboutit généralement par une étincelle lors du rééquilibrage, des décharges. Et parfois, on ne veut pas qu'il y ait des étincelles. Il suffit de penser à des industries qui mettent en jeu des matériaux inflammables ou explosifs ou électroniques, etc.
Vous prenez d'ailleurs l'exemple, on peut cette fois à deux voix d'une certaine façon, vous et moi si vous voulez, dire bon j'arrive et puis tiens je rentre, j'ai mes chaussures qui sont en caoutchouc et puis il y a une belle moquette, et j'avance, puis je me frotte un petit peu les pieds pour voir si elle est douce.
Voilà.
Et puis je vais ouvrir la porte. Et
là, voilà, les frottements des semelles en caoutchouc contre la moquette arrachent des électrons à la moquette, quelques milliards. Et ces électrons qui restent du coup sur nous, sur nos chaussures ou nous-mêmes, qui se repoussent entre eux, ces électrons en trop, eh ben, si on leur donne l'occasion de s'en aller en touchant quelqu'un d'autre, une poignée de porte ou que sais-je, ça va partir et sous forme d'une petite étincelle, 1 mm, 2 mm. Ce que j'explique aussi et qui est peu connu, c'est qu'afin d'obtenir une étincelle, mettons, de 1 mm dans l'air...
Ah oui, c'est très étonnant.
L'ordre de grandeur de la tension, c'est-à-dire le voltage qu'il faut avoir, pour 1 mm, c'est 1000 volts. Ce qui veut dire qu'en fait, en permanence, on se retrouve à 1000 volts, 10 000 volts. C'est très courant.
Oui. Un autre commentaire ?
Non, c'est vrai que, ces ordres de grandeur peuvent faire peur. C'est ça aussi que j'imagine que vous devez expliquer à votre public, parce que on se dit on peut s'électrocuter avec du 220 volts, et là on est à du 2000 volts. Comment ça se fait qu'on se tue pas?
Oui, je pense que une très bonne analogie, c'est de se dire que une chute depuis mettons 10 000 volts à 0 volts correspondrait, ça serait l'analogue d'une chute d'un objet situé en hauteur. Si je vous dis qu'il y a quelque chose qui m'est tombé sur la tête de 300 mètres de haut, ça m'a pas fait mal, et qu'un autre m'est tombé sur la tête de 1 mètre de haut, mais ça m'a fait mal, sans doute ça va pas vous surprendre. Ce que vous allez déduire, c'est que la chose qui est tombée de très haut, qui n'a pas fait mal, elle était très légère, il n'y avait pas grand-chose en fait qui est tombé. Et si c'est tombé de peu haut et ça a fait mal, c'était beaucoup quoi. Donc typiquement, un grain de sable qui tomberait de 300 mètres de haut, peu importe, ça fait pas mal. Un piano qui tomberait de 1 mètre, ça fait mal. Donc le voltage nous donne la hauteur.
Exactement.
Mais n'indique pas, ne dit rien concernant la quantité qui tombe.
Alors, cette fois, en numéro 3, j'ai retenu né et mort de rire. Donc là, ça vient du British Medical Journal, ça va. En tout cas, je le connais un petit peu plus, celui-là.
Oui, effectivement, c'est un journal qui est nettement plus prestigieux. Mais il se trouve que chaque année, le British Medical Journal, ou le BMJ, comme on l'appelle, publie dans son numéro de Noël... un certain nombre d'études plus légères, on va dire. Et en 2013, il s'est agi de parler du rire, puisque justement on s'amuse dans ce numéro. Donc ils se sont posé la question de savoir quelles étaient les conséquences physiologiques du rire. Et ils s'étaient rendu compte qu'eux-mêmes en avaient très peu parlé, puisque la dernière fois que ça avait été cité dans leur propre journal, c'était en 1899.
Et oui, j'étais étonné de ça.
Donc en fait, des chercheurs se sont posé la question de savoir, dans la littérature médicale, comment on parlait du rire et de ses conséquences. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des côtés bénéfiques au rire. Bon, évidemment, certains côtés sont évidents, et d'autres qui le sont moins, comme par exemple le fait qu'on avait fait intervenir des clowns en milieu hospitalier auprès de femmes qui venaient de subir un transfert d'embryon après une fécondation in vitro. Et on s'était rendu compte que le taux de succès donc de grossesse montait chez elles à 36% quand elles avaient vu le clown, et tandis qu'il plafonnait à 20% pour les femmes qui n'avaient pas eu le droit à ce numéro. Donc ce qui me faisait dire qu'on pouvait naître de rire, naître par le rire, grâce au rire.
Et mourir, alors là, c'est pas drôle.
On peut aussi mourir par le rire, c'est pour ça que on va pas peut-être drôle, pas, hein. On va peut-être pas envisager le remboursement des blagues de Toto par la sécurité sociale.
là, j'ai quand même les exemples.
Les exemples. Alors, il y a des exemples effectivement très négatifs. On peut avoir des choses assez graves. Bon, des choses assez bénignes comme le relâchement des sphincters quand on rit trop. Hein, ça a un nom. Ça s'appelle énurésis risoria, donc l'énurésie du rire. On peut se décrocher la mâchoire pour de vrai, c'est-à-dire faire sortir la mandibule, se déboîter la mandibule, et puis on peut mourir. Et donc, il y a des cas de syncope, parce qu'en fait, quand on rit, on retient sa respiration, il y a une très grosse pression, une augmentation de pression dans le thorax, lors d'un fou rire, et on peut effectivement avoir aussi des syncopes ou des accidents cardiovasculaires mortels.
France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgorges.
Voilà, allègrement passé le mi-temps de ce premier rendez-vous de Continent Science qui m'autorise à nouveau, pour ce qui nous prendra en marche, comme on dit, comme on parle du train, de leur souhaiter, de vous souhaiter à tous une très bonne année 2016, et toujours en compagnie de Camille Fadel et de Pierre Barthélémy pour regarder comment on peut être passeur de science. Alors, on passe aux couches culottes. Alors, ça va être l'épisode, non pas pipi caca, mais presque.
Mais presque, Pierre Barthélémy. C'est une étude que j'ai repérée qui date de 2006. C'était une équipe australo-américaine qui s'est intéressée au dégoût et donc s'est demandé qu'est-ce qu'il y a de plus dégoûtant que les excréments. Et donc, mais il se trouve que voilà, dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui doivent s'occuper des excréments. C'est les parents qui changent leurs enfants, leurs petits-enfants, les bébés. Et l'idée, c'était de voir un petit peu si l'être humain était capable de reconnaître le parfum de la couche culotte remplie par sa propre progéniture et de le différencier de celui de produit, on va dire, par un autre bébé. Et donc, c'est un test qui a été fait avec des jeunes mamans. Bon, ils sont bien doutés que les jeunes papas ne mettaient pas souvent la main dans cette pâte-là. Donc, qui devaient sentir deux couches culottes, donc qu'elles ne voyaient pas. Une qu'elles avaient elles-mêmes fournie et l'autre qui était fournie par une autre maman. Donc, devaient noter le dégoût que ça leur inspirait, l'odeur, que ça leur, si elles reconnaissaient, etc. Et on s'est rendu compte qu'elles étaient nettement moins dégoûtées par la couche culotte qui contenait les selles de leur enfant. Donc, on se pose la question de savoir si les mamans sont simplement juste habituées au parfum, entre guillemets, qui émane de leur petit, ou si elles perçoivent dans ces effluves un signal qui indique le lien de parenté entre elle et eux, puisqu'on sait aussi qu'on va partager un certain nombre de bactéries intestinales entre les parents et l'enfant.
Et bien sûr.
Donc, voilà. C'est plus profond que juste une expérience stupide sur les odeurs de couche-culotte.
Et oui, parce que quand le nouveau-né arrive, il a, si je puis dire, le ventre vide.
Exactement.
Et il faut que, et alors qu'on sait qu'il va se retrouver avec plus d'un kilo de bactéries diverses dans le transit intestinal, et puis d'autres bactéries encore dans le nez, on pourrait continuer la liste longtemps, 1 kilo, voire 1,5 kg par corps humain de ces petites bébêtes, c'est quand même tout à fait étonnant. Un petit commentaire, Camille, Adèle, là-dessus.
Moi, ce qui me, d'un point de vue, physique, je dirais, ce que j'ai tendance à évidemment relier à la physique. Ce qui me fait, on a parlé tout à l'heure de champ.
Oui.
On disait de champ électrique, champ magnétique. Bah là, l'odeur, c'est en quelque sorte au voisinage de la couche culotte. Il y a un champ d'odeur à mesure qu'on s'éloigne. L'odeur est de moins en moins forte et on s'approche de plus en plus forte. Voilà. Et quelqu'un qui n'aurait pas le sens de l'odorat aurait beaucoup de mal à comprendre ce qu'on entend par un champ d'odeur.
Champ d'odeur, on pourrait penser à un champ électromagnétique, et donc dont l'un des agents forts est bien sûr l'électron, voire le photon s'il s'agit de la lumière. Là, l'agent pourrait être, se transportant dans le champ atmosphérique, une phéromone, parce que on connaît évidemment beaucoup d'exemples éthologiques en éthologie d'animaux dont la femelle où la mère ne va accepter d'allaiter que celui avec qui elle partage quelque chose. Donc, est-ce que ça peut être une phéromone maternelle particulière, ou alors, on n'a jamais trouvé une phéromone de l'amour. Hein. Ça, c'est le grand, là encore, ça pourrait faire partie de votre rubrique.
Je pense que ça intéresserait beaucoup certaines compagnies qui feraient des fortunes avec ça, oui.
Oui, il y a eu beaucoup de tentatives avec le parfum aux phéromones qui va vous rendre le grand séducteur. Revenons à nos histoires d'électricité. On a à peu près vu les unités qui peuvent être distinguées. Il y a le mouvement des charges. Je trouve ça qui est très intéressant, ce mouvement-là.
Quand on a affaire à un courant électrique.
Exactement. Hein. Voilà, oui. On est maintenant dans le courant électrique. Oui. Et vous avez une très jolie formule d'ailleurs. Mmh. Vous dites que le courant électrique est à l'électricité statique ce que le fleuve est au lac.
Oui.
C'est une jolie formule.
Voilà, effectivement, quand on a affaire à un courant électrique, ça veut dire qu'on a des charges électriques en mouvement dans un fil, typiquement, parce que ce sont des électrons, les charges électriques qui sont en mouvement. Tout à l'heure, j'ai fait la comparaison avec l'autoroute. La comparaison n'est pas si bonne que ça, parce que sur une autoroute, les voitures vont toutes parallèlement les unes aux autres.
Oui.
Mais il faut, pour voir comment, pour se représenter la manière dont des électrons se déplacent dans un fil, ce que c'est que le courant électrique, une meilleure image serait d'imaginer des moucherons en mouvement ou un nuage de criquets migrateurs.
Oui.
Les criquets, individuellement, ils font n'importe quoi. Ils montent, ils descendent, ils vont en arrière, ils se cognent, etc.
Aléatoire.
C'est aléatoire leur mouvement.
Aléatoire.
Voilà. N'empêche que le nuage avance quand même. Il y a un mouvement de dérive, comme on dit. Eh ben, les électrons, c'est ça. Individuellement, ils effectuent un mouvement très erratique à très grande vitesse, typiquement 1000 km par seconde. Mais le mouvement de dérive, correspond au courant électrique, ce mouvement-là, il est très lent. Dans un fil électrique, typiquement, ce que j'explique dans le livre, une vitesse typique, c'est de l'ordre de 10-20 cm à l'heure. Ce qui fait de l'ordre de 0,1 mm par seconde. Quoi. Donc, ça, ce sont vraiment de vrais escargots. Quoi.
Oui. Alors, on peut maintenant regarder, parce que, évidemment, quand on a un courant électrique, et ça correspond à un grand principe de la physique. Donc on a de l'énergie, bien évidemment. Tout se mesure en énergie, et que cette énergie est convertible. Et donc pour introduire l'électromagnétisme, on voit que, en particulier parmi les pionniers de l'électromagnétisme, avant qu'on arrive au grand prince qui subit par quelques équations va donc unifier le magnétisme et les phénomènes électriques. C'est Maxwell, le grand physicien écossais, qui avait été précédé donc ses travaux par les expériences de Faraday, qui montrent qu'on peut faire du travail et qu'on peut donc convertir les choses. Ça, c'est un point qui est, je pense, très intéressant aussi. Il me vient à l'esprit.
Le point de conversion, c'est que tout le monde connaît, c'est le principe de la dynamo de vélo. On fournit un travail mécanique et quand on pédale, on fait tourner grosso modo un aimant devant une petite bobine aux extrémités de laquelle on a fixé une petite ampoule. Et l'énergie mécanique qu'on est en train de dépenser produit le courant électrique qui ensuite alimente le filament de la petite lampe et qui s'échauffe et qui brille. Donc le Faraday découvre cette conversion mécanique et électrique. Mais à cette époque-là, quand Faraday découvre en 1832, la notion d'énergie n'était pas encore en place. Ça vient plus tard. Et c'est progressivement qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui se conserve. Cette grandeur, on l'appelle énergie. Du coup, de nos jours, on va dire l'énergie mécanique s'est convertie en énergie électrique.
C'est ça, et on pourrait continuer la liste en disant qu'elle peut se convertir en énergie chimique, ainsi de suite. Voilà. Tout ça correspondant au premier principe de la thermodynamique qui a été arrêté par ce grand Boltzmann.
Helmholtz-Boltzmann, oui, enfin Helmholtz aussi.
On pourrait en mettre plusieurs avant.
Mais ce qui est intéressant, des découvertes sont toujours très difficiles à attribuer à une personne, mais ce qui est intéressant, on parlait tout à l'heure de l'électrostatique, on ne sait pas comment le transfert se fait, mais Feynman, un grand physicien du XXe siècle, prix Nobel de physique en 65, il me semble, il disait que l'énergie... Eh ben, pour définir ce que c'est que l'énergie, bonjour. Effectivement... C'est un peu facile. On convertit l'énergie mécanique en énergie électrique, mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Ça, c'est beaucoup plus difficile à tenter de définir.
Oui. Alors, je me tourne vers vous à nouveau, Pierre Barthélémy. Est-ce qu'on pourrait parler des mordus de l'amour?
Alors, les mordus de l'amour, là, on est vraiment dans la partie de la science improbable où ce sont pas vraiment les chercheurs qui font la science improbable, ce sont plutôt les sujets qu'ils étudient, c'est-à-dire ce sont des études qui parlent de cas, des études de cas, et c'est une étude qui a été publiée en 1990 dans le British Journal of Surgery, et c'est un monsieur, un médecin qui travaillait au Royal Victoria Hospital de Belfast et qui a vu arriver plusieurs personnes au cours de sa carrière qui arrivaient aux urgences suite à des ébats amoureux qui sont terminés dans un claquement de dents. C'est-à-dire
c'est
que
terrible.
Oui, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, au plus fort de ces ébats, il y a eu une morsure involontaire et la mâchoire de l'être humain est quand même assez puissante, mine de rien. On est quand même très très carnassier dans le fond pour
donc on
certaines
est bien
choses.
Armé, de ce
oui,
côté-là.
on est assez bien armé. Et donc c'était des gens qui étaient arrivés avec un bout de téton en moins ou des profondes morsures dans le cou et qu'il a fallu effectivement désinfecter, recoudre, etc. Certains, c'était beaucoup dans le cou parce qu'évidemment ce sont des zones lors des ébats amoureux qui sont assez qui sont assez
érogènes.
Voilà, et on est beaucoup là-dedans.
Et tendre.
Et au début, c'était posé les questions d'une espèce d'épidémie entre guillemets de vampirisme. Et ce qui est très amusant, c'est le dernier cas qui cite, c'est un monsieur de 35 ans qui se présente un jour à l'hôpital avec sous la peau au niveau de la clavicule une espèce de masse de 2 cm. Et donc, ça fait plusieurs mois qu'il s'en inquiète. Et donc, il faut l'opérer, il faut extraire cette masse. Et on se rend compte que c'est une dent en plastique. Et c'est à ce moment-là que le monsieur s'est souvenu que pendant la fête de Halloween, qui avait été très arrosée, il avait fait la connaissance d'une charmante dame qui était déguisée en vampire.
Oui. Cela dit, là, c'était peut-être pas involontaire, c'était peut-être volontaire.
Oui. Cela dit aussi, il y a des morsures terribles, effectivement. En particulier, je sais que les otaries, celles que j'ai pu voir lors d'un reportage à Kerguelen, arrachent quand elles mordent. Et là, il y a il y a des situations de morsures où c'est très grave et on ne ferme pas la plaie. Et ceux qui s'occupaient, parce que un des scientifiques, avec son équipe, avait fait une erreur en pesant une otarie femelle, qui donc avait eu un geste de peur, et qui avait donc, lui avait arraché, heureusement c'était peu profond, une partie de l'avant-bras. Et on ne recoupe pas.
Oui, parce qu'en fait, la bouche de l'otarie est quand même remplie de tas de microbes. Et donc, si je me souviens bien, l'idée, c'est de ne pas recoudre pour pas renfermer les microbes à l'intérieur de la plaie.
Oui.
Et donc, de trouver un moyen de désinfection que je vous laisse décrire.
Non, j'ai appris à cette occasion, et d'ailleurs, c'est encore pratiqué, qu'on met un certain type d'asticot.
Voilà.
Pendant tout le temps de la plaie, ça peut durer un mois, ça paraît comme ça dégoûtant, mais ce sont des sortes d'aides ou des auxiliaires de santé d'une certaine façon, puisqu'ils mangent toutes les chairs abîmées, les chairs infectées,
les chairs mortes,
ils nettoient, et quand la chose est parfaitement nettoyée, les antibiotiques maintenant ont fait leur effet, eh bien on recoupe, et ça peut prendre longtemps. Alors, revenons à la physique, Camille Fadel. Revenons à cette histoire de chant. Comment est-ce que vous faites avec l'histoire de chant? Parce qu'une des présentations bien célèbres, c'est reprendre l'exemple de Faraday, où on voit les lignes de force qui se dessinent avec de la limaille placée sur une plaque avec un aimant en dessous, et on voit donc les lignes de force. Très bien, c'est macroscopique, c'est tellement abstrait, un chant, puisque un chant, ça peut être vide, et c'est pourtant un des concepts nodaux qui traverse toute la physique à partir du 19e siècle, et qui maintenant, même, on peut parler aussi de champ gravitationnel, bien évidemment, avec les travaux de Newton. Comment vous vous emparez de cette abstraction étrange? C'est pas un objet, c'est... Comment vous faites, vous, le passeur?
L'idée qu'il faut avoir à l'esprit, je pense, c'est l'approche un peu historique, puisque la raison pour laquelle on a introduit la notion de champ, c'était en partie parce qu'on voulait éviter l'action à distance. C'est-à-dire que quand on prend un aimant et un clou en fer, le clou vient se coller à l'aimant, on n'a pas envie de dire que l'aimant a agi sur le clou parce qu'il est ailleurs. Si l'aimant agissait sur le clou, ça veut dire que l'aimant avait le pouvoir d'une action à distance, qui relève davantage de la sorcellerie. Et donc, on a imaginé que l'aimant vient accompagné de quelque chose que nous ne voyons pas, que nos sens ne nous permettent pas de percevoir, mais qui est quand même là. Et l'aimant baigne dans son champ magnétique, et si dans ce champ magnétique on place un clou en fer, c'est le champ magnétique de l'aimant qui va agir, exercer une force sur le clou, et va l'objet à venir se coller à l'aimant. Mais une fois qu'on a posé cette façon de voir, et bien à partir de là, on peut se dire que dès l'instant où il y a une interaction entre deux choses, il y a un champ de quelque chose. Dans le cas de l'aimant, c'est relativement facile de se représenter, au moins de concevoir qu'il y a quelque chose. Avec la limaille de fer, d'ailleurs, on commence presque à voir les lignes de champ. Mais dans d'autres situations, ça devient bien plus difficile de se représenter ce champ. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est imaginez une personne qui n'aurait pas d'odorat et à qui vous seriez en train de parler un champ d'odeur. L'odeur devient plus fort, moins fort. Que peut-il saisir ? C'est très difficile, je pense, de comprendre ce dont on parle quand on va parler de champ d'odeur.
Alors, ultime exemple, on n'aura pas le temps, malheureusement. Je vous avais demandé, est-ce que quelque chose pourrait tenir en 30 secondes,
Quelque chose peut tenir en 30 secondes, oui. C'est l'histoire de ces chercheurs italiens qui ont voulu tester si on pouvait effectivement dissoudre des cadavres dans l'acide sulfurique comme on le voit dans les films. Et donc ils l'ont fait et ils se sont rendu compte que oui, effectivement, c'était possible, mais pas du tout en 10 minutes ou un quart d'heure comme disaient les mafieux, mais qu'il fallait des heures voire des jours et qu'il fallait aussi connaître un peu de chimie.
C'est ça.
Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que les mafieux ont fait de la chimie avant?
Oui, et s'il fallait pas rajouter un petit peu d'eau, un peu plus pour faire la réaction, ainsi de suite. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, Pierre Barthélémy et vous, Camille Fadel, pour avoir ouvert cette année de Continent Science, de nous avoir accompagnés pour ce début d'année, tout simplement. Donc, nous allons partager à nouveau ces souhaits de bonne année. C'était Continent Science. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont les bienvenues. Aujourd'hui à la console, Cédric Châtelus, pour la documentation Thierry Beauchamp, à la réalisation Annie Journeau, Stéphane Delisgeorges. Continent Science, c'est balado diffusé. Vous pouvez nous réécouter dans une totale liberté, donc si vous ne nous avez pas écouté en direct, et cela pendant le temps d'une grande année, ou de nous écouter, et cela pendant le temps de 1000 jours.